Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, et ce débrief de la tech, moi je vous dis, chaque soir, je me dis, mais quel sujet on va trouver? Mais non, sans problème, on pourrait, avec tous les sujets qui nous arrivent chaque jour, on remplit sans problème une heure et demie d'émission, on pourrait même en faire beaucoup plus. Et on va en parler avec nos débriefeurs. Je vous les présente ce soir, Augustin Seyer, bonsoir.
Bonsoir Frédéric.
Augustin, cofondateur et directeur général d'OVNI Capital. Avec nous également Yves Maître, bonsoir Yves.
Bonsoir.
Bienvenue, operating partner chez Jol Capital, consultant, ancien PDG de HTC, donc il connaît parfaitement, évidemment, tous ces sujets. Et puis Cédric Ingrand. Bonsoir Cédric.
Salut Fred.
Voilà, notre ancien collègue de LCI TF1 et aujourd'hui directeur général de Heavyweight Studio. Voilà, si vous avez des vidéos à faire. C'est ton activité, c'est quoi? Tiens, donne-nous.
Ah, c'est de la vidéo corporate pour voilà. Des grands clients que parfois je peux pas nommer parce que c'est souvent des vidéos internes.
Ah oui, et beaucoup de tech un peu?
Énormément, et puis même beaucoup d'usage de l'IA que je peux te montrer, mais pas plus loin.
Bon, eh bien,
on fait des choses formidables.
On verra. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal de start-up dans le domaine. Et puis moi, tiens, on en parlera aussi dans un instant, le nouveau Deep Research d'OpenAI, assez impressionnant. Allez, on va démarrer avec les résultats de Google. Voilà, on va sauter sur l'actualité, la suite des publications des GAFAM. Hein. La nuit dernière, c'était autour d'Alphabet, la maison mère de Google, et on peut dire que c'est une grosse déception. Le titre perdait plus de 7%. Dans les échanges après bourse. Anthony Morel, le pari de l'intelligence artificielle coûte cher et tarde à rapporter. On écoute ce qu'il nous dit.
Oui, c'est un peu la même musique qu'on avait entendue la semaine dernière chez Microsoft et chez Meta, si vous vous souvenez. C'est-à-dire l'IA qui est censée être un relais de croissance et qui, pour l'instant, est surtout un relais de dépenses hein, pour tous les GAFAM. C'est assez clair chez Google quand on regarde, par exemple, les résultats de la division cloud qui sont intimement liés à l'explosion de l'IA générative. Alors, on est à plus 30%, c'est pas mal, mais c'est moins que les attentes et surtout, ce sont les prévisions d'investissement qui sont largement supérieures à ce qu'on s'attendait, à ce à quoi on s'attendait, de l'ordre de 75 milliards de dollars cette année, notamment pour bâtir des data centers, plus d'infrastructures, mais on est dans un contexte où on a quand même DeepSeek qui a rebattu les cartes en nous laissant comprendre qu'on pouvait faire aussi bien avec beaucoup, beaucoup moins de moyens, même si, je le dis entre parenthèses, hein, mais ce narratif commence à être un tout petit peu remis en cause.
Les chiffres chinois,
oui,
des pincettes.
Quand ils nous disent on a eu besoin de 6 millions de dollars pour entraîner notre modèle de langage, il y a quand même un peu de doute, mais quand même, ça veut dire qu'on peut faire mieux pour moins. Un point positif quand même, c'est l'augmentation des revenus du search chez Google, le moteur de recherche qui reste quand même son cœur de métier, qui était en danger de mort, si l'on peut dire, avec l'émergence de l'intelligence artificielle générative et qui finalement se porte plutôt bien.
Voilà, alors oui, c'est vrai, on le disait hors micro, déception alors pour la bourse, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient faire autant de bénéfices sur le trimestre. Hein. Le chiffre d'affaires au trimestre, c'est quand même près de 100 milliards de dollars. Voilà. Les bénéfices, ça doit être 23 ou 26 milliards. Oui. Et rien que la division cloud, c'est 2,1 milliards de dollars de bénéfices. Hein. Mais voilà, on se pose quand même des questions parce qu'évidemment, bien Google est attaqué hein, sur son modèle, sur son search aujourd'hui avec de l'IA. Même si Google intègre évidemment beaucoup plus de Gemini, hein, on l'a dans la petite barre quand on fait de la recherche. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Cédric ?
C'est difficile de plaindre Google.
Oui.
Comme dirait ma grand-mère, ils ont des problèmes, mais c'est des problèmes de riches.
Ouais.
Mais c'est vrai, le problème quand t'es numéro un, c'est que the only way is down, comme diraient les Américains. Il y a que des coups à prendre. Et tout le monde a envie de savoir où est-ce que toi, tu vois le coup d'après.
Mm-hmm.
Et surtout, là, ils arrivent à un moment, c'est juste leurs chiffres, la communication de leurs chiffres arrive juste après DeepSeek où tout à coup, on a l'impression que la Terre a un peu bougé. Enfin,
oui,
c'est-à-dire
oui.
Que ce serait passé il y a 3 semaines, ils auraient dit on va mettre 75 milliards dans des nouveaux data centers.
Super,
tout le monde aurait
allez,
dit
go.
Ok, la voie est tracée, on va suivre. Et là, tout à coup, non seulement certains vont vous dire ah c'est peut-être pas assez, et il y en a d'autres qui vont dire c'est peut-être beaucoup trop. Enfin, on ne sait plus tout à coup. C'est-à-dire que vraiment les cartes sont rebattues. Ça va faire une année assez intéressante. Mais ils ont à la fois des ressources, un ethos, une R&D. Enfin, ils ont de quoi se retourner. Évidemment, le problème c'est qu'ils sont absolument rois du search,
mm-hmm.
et que quelle sera la pertinence du search dans un an, 5 ans, 10 ans.
Je crois que leurs chiffres dans le search sont plutôt bons, et puis justement, ils c'est quand même pas des imbéciles, ils vont continuer à intégrer de l'IA. Augustin.
Ouais, enfin, la croissance, si on regarde Google, croissance trimestre sur trimestre, elle n'a jamais été aussi faible. Et moi, je pense que les actionnaires, les investisseurs sont inquiets de quelque chose, changement d'habitude. Aujourd'hui, D'ailleurs, c'est intéressant parce que le Gemini est quand même bien plus performant que les meilleurs modèles de ChatGPT mm-hmm. et Google l'offre gratuitement. Si on va sur gemini.google.com, il y a le.
Enfin,
tu as des bien meilleurs résultats que sur ChatGPT
Ça dépend sur quoi?
Ça dépend peut-être sur quel usage. Ce que je pense, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on va vers une consommation du search à la ChatGPT, à la Gemini, où est-ce que tu mets les ads là-dedans? Et je pense que t'arrives à un plafond aujourd'hui de chiffre d'affaires du search, qui est évidemment la plupart, le monde, enfin, je pense que ceux qui utilisent ChatGPT aujourd'hui, ça reste les early adopters sur la taille du marché de Google. Et plus ChatGPT va manger, enfin, le style de search à la ChatGPT, que ce soit du Gemini, même s'il reste chez Google, le problème, c'est que t'enlèves les ads. Une fois que t'enlèves les ads, t'enlèves Google Search, le revenu Google Search. Et moi, je pense que c'est ce qui inquiète les investisseurs. Et des early adopters, donc tu vois, ça peut être du Gemini, du ChatGPT. Aujourd'hui, moi, j'utilise 10 fois moins Google. Enfin, je sais même pas la dernière fois que j'ai utilisé Google pour mon travail, pour mes recherches. Pour quasiment tout, tu utilises pourquoi
si, vraiment juste pour de la recherche, pour trouver 5 papiers sur OpenAI, pour trouver si ça reste.
Ouais, mais ok. Mais demain, tu utiliseras peut-être Gemini directement de Google. Et moi, aujourd'hui, sur ChatGPT, il y a Web GPT, je sais pas quoi. En fait, aujourd'hui, ça me fait le travail d'un Google. Enfin, à part évidemment Gmail, et donc ça, c'est d'autres choses. T'as peut-être du.
Il y a toute cette activité-là, parce qu'évidemment, Google se résume pas au moteur de recherche.
Oui.
Très, très loin de là. Mais c'est vrai qu'il.
L'activité cloud.
En fait, ils sont pas tant dans une course à étendre le domaine de la lutte qu'une course à la diversification. Ils ont besoin de faire d'autres choses. Comme un Microsoft, un jour, s'est aperçu que, voilà, Windows et Office, c'était super.
Ils sont en train, hein, il y avait un papier la semaine dernière, en début de semaine, qui dit qu'ils sont en train aussi de réorienter pas mal de vider pas mal de divisions autour d'Android, autour de Chrome et tout ça pour, renforcer. C'est la division IA et ce que l'on voit avec ces 75 milliards qu'ils comptent investir cette année pour, autour des data centers.
Oui, moi, je suis assez d'accord. Hein. Aujourd'hui, la pub, c'est 75% du revenu. Donc, 72,5 milliards sur Q4, pour la période de Noël, on va dire ça comme ça, vient de la pub. Android, qui est quand même... Enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui ont un téléphone Android, ça ne représente que 12 milliards. Donc, évidemment, si la pub vient à tousser... C'est l'ensemble du groupe qui va éternuer. Okay Parce que c'est 75% des revenus. Donc, c'est juste énorme. Deuxième chose, le cloud de Google, il ne va pas aussi bien que ses concurrents. Mm-hmm. Alors, certes, il a une croissance de 30%.
Oui, mais c'est vrai qu'il est souvent derrière les Azure et AWS.
Mais c'est inférieur, la croissance est inférieure à celle de Microsoft et de Azure. Bon, donc il y a une inquiétude. Et cette inquiétude, elle est assez légitime par rapport à ce que vous disiez, c'est quel est l'usage du search quand on a de l'intelligence artificielle. Alors, il ne va pas complètement disparaître, mais est-ce qu'on va l'utiliser moitié moins, trois quarts de moins,
OpenAI, il met du LAD dans son search, c'est des budgets. Aujourd'hui, Google, ils ont 100% des budgets. Donc en fait, demain, j'invente, mais ChatGPT dit, on va mettre de LAD, la marque L'Oréal, L'Oréal va dire, on avait 100 euros, on va aller mettre 10 euros chez ChatGPT, on baisse à 90 chez Google, et là, ça va faire mal.
Bien sûr.
Simple pour un OpenAI de faire ce mouvement-là que pour Google de pousser son activité de search vers les assistants.
Il aimerait bien.
Et vers Gemini.
Bien.
Parce qu'il faut rappeler, les LLM sont des choses qui n'ont pas prouvé leur capacité à gagner de l'argent. Enfin, à l'échelle des investissements qui sont consentis. Donc, c'est vrai qu'ils sont dans une équation compliquée.
Ouais, moi, il y a aussi une chose que je retiens, c'est l'investissement qu'ils font dans le cloud. Ils ont annoncé, on s'attendait à ce qu'ils annoncent une cinquantaine de millions, ils en annoncent 75 milliards.
Milliards.
Et quand on prend. Quand...
Soyez sérieux, Charles.
De toute façon,
j'ai cru qu'on était en France.
C'est l'unité. C'est l'unité. J'en parlerai à Benjamin Rafflechki qui est tout à l'heure.
Si tu prends les annonces de Microsoft, Meta et Google ces derniers jours, c'est 220 milliards de dollars mis dans le cloud. C'est juste énorme. Et on n'a pas Amazon qui est le leader, qui n'a pas encore annoncé ses chiffres. Donc, on va arriver à quelque chose qui est au-dessus de 300 milliards. Je veux dire, quand on regarde l'Europe, je ne parle même pas de la France. Je veux dire... C'est
un autre combat.
C'est inquiétant parce que ça, c'est de l'infrastructure.
On va être ravis de les accueillir.
Non, mais je trouve que c'est l'infrastructure, mais ils ont aussi toutes ces couches logicielles au-dessus qui sont hyper performantes, dont ont besoin les entreprises. Ils sont assez réactifs aussi dans chacun de ces domaines. C'est vrai que là, on a. En tout cas, voilà, il y a les investisseurs s'inquiètent un peu. C'est vrai que le jour où les LLM déclencheront un peu leur volet pub. On verra ce que ça donne chez Google, qui n'est pas, encore une fois, hein, Gemini, ils sont pas les plus maladroits pour autour de leur IA.
Dans le mot, dans GAFAM, pour moi, le G, c'est celui qui est le plus menacé dans leur business model. Hein. Apple, Facebook, ouais. Amazon,
Microsoft.
Ils ont tous des business qui sont beaucoup moins dépendants.
Amazon, ils ont, enfin, pardon, ouais. Facebook a beaucoup de pubs. Enfin,
oui, Meta, mais Facebook, ils ont de la pub sur du social. Et social, on l'utilise toujours,
vrai,
en fait.
C'est vrai.
C'est de l'Instagram, c'est du Facebook, c'est du WhatsApp. Et donc, ça, ils ont réussi à se défendre. Google, ils n'ont aucun réseau social. Non. Les réseaux sociaux, ils ont essayé avec Google Plus il y a longtemps.
C'était bien, mais
Google
ça n'a pas
Plus,
duré. Ouais. C'est marrant. Attends, ils vont peut-être acheter TikTok.
Ça devient peut-être, en fait, c'est un bon point, ça devient peut-être
les 50% de TikTok que Trump va leur laisser.
Ouais, c'est possible.
Puisque tout devient possible.
Oui, puis Sundar Pichai était à l'investiture, on se rappelle, il était au côté de Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg, de Tim Cook. Donc, il sera à Paris la semaine prochaine. Sujet suivant, on va évidemment continuer à rester dans l'IA, c'est OpenAI. Hein. Alors, OpenAI, il y a plusieurs choses autour d'OpenAI. Il y a ce fédéral. Alors, ils ont sorti leur nouvelle Deep Search, qui est assez impressionnant. Hein. Moi, j'ai testé sur des choses. Alors, c'est à $200 par mois. Hein.
C'est dans l'abonnement pro à $200, et c'est quelque chose qui va redescendre sur des abonnements tous payants, a priori, ça n'existera pas en gratuit. Et pour cause, c'est quelque chose d'assez lourd. C'est un véritable assistant de recherche. C'est presque plus un assistant de recherche, c'est presque un chercheur à part entière.
Oui, parce qu'il peut rédiger.
Il peut aller compulser des centaines de pages web, des documents, etc. Il rédige des synthèses, il rédige pour toi. Mais du coup, ça prend du temps. C'est pas quelques secondes, voire 20 secondes, comme leur modèle O1, qui est un modèle de réflexion. Là, ça peut prendre une demi-heure avant qu'on t'envoie le résultat. Et ce qu'on envoie est confondant.
Alors c'est vrai que le résultat est confondant. Hein. Alors, pour vous donner un exemple, Nicolas Guyon, qui vient régulièrement ici, a fait une recherche sur l'IA et le cinéma. Et ça lui a fait 10-12 pages chapitrées, sourcées. Il a juste rentré quelques... Il dit, je dois faire une conférence sur l'IA et les médias. Donne-moi un peu d'actualité. Donne-moi un peu de contexte. Où est-ce que... Non, IA et cinéma, pardon. Où est-ce que le cinéma est challengé par l'IA? Enfin, il a mis plusieurs petites choses, mais un prompt qui fait 10 lignes, quoi. On lui a sorti c'est une douzaine de pages chapitrées, sourcées, avec à la fin une bibliographie, enfin un truc assez incroyable. Alors, c'est un peu verbeux, hein, comme toujours dans ce genre de choses, mais quand même, c'est assez impressionnant. Alors, après, l'autre jour, on en parlait ici même sur ce plateau, l'histoire de la demi-heure à attendre, ça peut être aussi un petit game changer, parce que ça, les gens n'aiment pas attendre. Hein. On est habitué à ce qu'on appuie, puis on voit que ça déroule. Ouais.
C'est peut-être aussi que ça prend beaucoup de ressources. Et même pour les gens qui payent 200 euros ou dollars par mois, tu peux en faire qu'une centaine dans le mois. Ce qui est déjà pas mal, je veux dire. Une centaine de mémoires de recharge dans le mois, c'est quand même plutôt correct. Mais c'est confondant, tout comme tous ces moteurs de réflexion. Parce que moi, je vais te faire un aveu. J'étais très énervé pendant toute l'histoire du DeepSeek, où les gens disaient, mais on ne peut pas lui poser de questions sur Tiananmen. Mais c'est pas ça qui sert. C'est un moteur de réflexion. C'est un truc à qui il faut poser soit des questions compliquées, soit lui soumettre des données compliquées pour qu'il en tire de l'intelligence.
C'est une idée de raisonnement.
Et ça, tant côté OpenAI que DeepSeek, c'est des choses extraordinaires. Parce qu'en plus, le moteur t'explique la façon dont il arrive à la conclusion de son raisonnement. C'est confondant.
Oui, alors, Yves, moi je trouve que c'est assez intéressant parce que, en fait, on voit qu'on met tout sous un mot AI. Comme on mettrait tous sous un mot habit, mais ça ne veut pas dire que tous les habits sont les mêmes. Il y a une cravate, il y a des chaussettes, etc.
Les intelligences
artificielles. Et donc, les choses sont en train de se classifier. Okay, donc, la première qui est née, c'est ChatGPT il y a 2 ans maintenant. Ça, c'est ce que tu appelles, et je trouve que tu as raison, un moteur de réponse, quelque part. C'est-à-dire, on pose une question relativement simple. Est-ce que tu peux me résumer ça? Est-ce que tu peux me traduire ça en russe, tiens, par exemple? Est-ce que, voilà. Et on a la réponse. Les résumés sont bien faits. On a des réponses bien structurées. C'est la première chose. La deuxième chose qu'on a vue, c'est je fabrique des images et des vidéos. Mais c'est encore une autre catégorie. Okay. Mais si on reste dans le texte, alors dans le premier, il y avait aussi les chatbots, hein, où on peut parler avec un chatbot, quoi. Bon, et maintenant on est passé dans la phase principalement avec DeepSeek, mais pas uniquement, où l'intelligence artificielle, c'est du raisonnement. C'est quoi la logique? C'est quoi ta logique de raisonnement? Et là, je suis absolument bluffé aussi, parce que des fois, ça m'est arrivé ce week-end, je cherche un truc, puis je réfléchis, je vais dans la cuisine, je fais des machins. Puis je reprends mon truc, Parce que j'ai raisonné et je lui repose une autre question. Et là, il me dit, si tu m'as posé cette question, c'est parce que probablement tu as fait ce chemin-là. Je me suis dit, mais c'est dingue. Mais c'est dingue. Moi, j'ai mis un quart d'heure pour faire le cheminement. Et en l'occurrence, c'était DeepSeek. Et il me dit, tu as fait ce cheminement-là. Je me suis dit, mais... Il m'a suivi. Perturbant. Et le dernier qui vient de sortir, c'est donc ce Deep Search, qui lui n'est pas dans la logique, qui fait dans l'analyse. Ouais. Et ça, c'est très intéressant parce que on a tous appris à l'école, analyse, thèse, antithèse, synthèse. Bon. Et on sait bien que plus t'as de données, plus l'analyse est compliquée. Et donc plus la thèse ou l'antithèse sont compliquées, etc., etc. Et donc avoir un moteur qui permet d'avoir une analyse qui devenait... C'est vraiment compliqué de faire une belle analyse, parce qu'il y a tellement d'informations, elle est tellement éparpillée, on a tellement du mal à...
Et tu lui donnes une dizaine de lignes de prompts, en plus.
Et elle te donne tous les éléments pour après pouvoir construire ta thèse, ton design de synthèse, si tu veux la faire. Ouais. Sinon, elle peut la faire aussi. Et ça, c'est intéressant. Donc, on voit vraiment qu'il y a... On ne peut plus parler d'AI comme on en parlait il y a encore 6 mois. C'est vraiment des catégories.
Et puis la vague qui a déjà commencé, c'est celle des agents. C'est-à-dire des choses auxquelles tu ne vas plus faire des requêtes, mais qui vont vraiment t'accompagner. On voit des choses absolument confondantes. Je ne sais pas, dans le commerce, imagine, tu as des agents qui, par exemple, si tu es commercial et que tu parles à un de tes clients, il y en a un petit agent dans le coin de ta fenêtre à toi, pas celle du client, qui écoute la conversation en temps réel et qui dit « Ah, tiens, le client vient de citer tel concurrent. Il faudrait lui dire que sur cette offre-là, le concurrent, il n'a pas A, B, C, etc. etc. » Comme du coaching en temps réel. Et ça, c'est la prochaine vague. C'est la vague agentique.
Quoi.
C'était un peu ce qu'imaginait Google au début, où il disait finalement, on aimerait vous présenter l'information sans même que vous ayez besoin de la demander. Ou comme Jeff Bezos qui voulait vous livrer des choses sans que vous ayez besoin de les commander.
Oui, il préparait les colis d'ailleurs avant qu'on les commande.
C'est ça.
Ah, il y a une époque, il le faisait, oui. Et tu pouvais refuser.
Il va avoir besoin d'un paquet de couches, voilà.
Alors moi, j'avais essayé Operator. J'ai trouvé ça un peu décevant. L'opérateur, mais je pense que c'est un use case humain.
Ça va venir.
En fait, qu'on aurait pu coder nous-mêmes. Mais
opérateur, ensuite... c'est quand ChatGPT prend le contrôle de ton ordinateur. Also known as le jour du début de la fin de l'humanité.
Et j'avais même fait, en fait, tu sais, il y a des options sur Internet. Tu peux connecter DeepSeek à des guides qui permettent de prendre le contrôle de ton Chrome. Et c'est sympa, ça fait un peu jouer, mais en fait, si tu sais bien coder, tu sais coder un peu quelques cas d'usage. Non, quand tu vois Deep Search, on revient sur la discussion Google, ils sont obligés de continuellement innover, de garder un peu cette place comme leader d'innovation dans l'intelligence artificielle, pour que demain ce soit plus les GAFAM, mais les OAFAM, quoi.
Ouais. Mais ce qui est impressionnant aussi, c'est... Alors, il y a aussi un gros côté communication côté OpenAI. Cédric, tu as relevé le côté financier, on va y revenir dans un instant. Ouais. Mais c'est vrai que on parle plus de ChatGPT-5. On ne sait pas où il est pour l'instant. Alors on a O3, on a Micro O3, on a O4. On a plein de nouvelles versions comme ça, de sous-versions. Et il faut occuper le terrain sans cesse. Puis là, je pense que l'histoire de DeepSeek, on y reviendra tout à l'heure, ça leur a donné ça les a un peu bousculés. Et puis il y a les histoires d'investissement. Hein. Tu relevais, là, il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites autour de SoftBank avec
Maïs Ochissane,
oui.
qui est un génie, mais qui n'a pas toujours eu des investissements heureux. On se souvient de WeWork. Et qui a annoncé qu'il allait investir 15 milliards à partir de son Vision Fund dans OpenAI à une valorisation de 400 milliards de dollars. En octobre dernier, moi, on me disait que OpenAI, ça valait 150. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça vaille 250 de plus? Là encore, le décalage de l'histoire par rapport à la sortie de DeepSeek, forcément, normalement, c'est le moment où l'investisseur appuie sur pause. Attendez, bougez pas. Il faut peut-être que je réévalue la situation. Expliquez-moi comment OpenAI peut valoir 400 milliards. 400 milliards de dollars, c'est LVMH.
C'est ce qu'on disait l'autre jour quand Nvidia, suite à la sortie de DeepSeek, a perdu 600 milliards, c'était LVMH et L'Oréal. La valorisation perdue en une journée, 600 milliards, c'était LVMH et L'Oréal.
Donc ça, normalement, ça devrait faire réfléchir. Apparemment, ça ne l'embête pas. Moi, il y a un problème de fond, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que CLLM n'ont pas prouvé leur capacité à faire gagner de l'argent à leurs opérateurs. Mm-hmm. Alors, c'est pas très grave.
C'est pas les abonnements qui, pour l'instant...
Il y a les abonnements, c'est bien. Il y a les API.
Il y a les... Aujourd'hui, ils font vivre tous les GPT, tous les rappeurs AI, toutes les startups qui utilisent le bac.
Mais que ce soit très important et qu'il y ait un écosystème de gens qui gagnent leur vie avec, on connaît ça sur plein d'industries. Regardez l'industrie aérienne. les compagnies aériennes, ça, n'ont jamais gagné d'argent. Je veux dire, les compagnies aériennes sont des choses qui font faillite les unes après les autres, qu'on relève de la faillite, qui repartent, qui s'arrêtent. Mais l'écosystème en lui-même, il est too big to fail, j'ai envie de dire. C'est un moteur de l'économie, ça ne s'arrêtera pas. L'industrie du PC, l'ordinateur personnel, c'est la même chose. Souvenez-vous, Compaq, Gateway 2000, etc., tous ces gens qui sont morts les uns derrière les autres, pourtant on continue d'acheter des PC avec des gens qui font des marges qui sont vraiment dans l'épaisseur du trait, mais ça ne s'arrêtera pas parce qu'évidemment, on en a tous besoin, c'est un moteur de l'économie. Il y a plein de gens, on gagne sa vie, mais c'est pas les opérateurs souvent qui sont les premiers. Les vendeurs d'Opel, eux, ils gagnent pendant leur... Bah, les gens qui font des data centres aujourd'hui.
Regarde les télécoms hein, que tu connais bien, ouais, voilà. Qui gagnent de l'argent, c'est
tous les gens qui font des cadences,
c'est qui passent au-dessus. Ouais. Hein.
Vendeurs et décadence. Ouais.
Et donc, une fois de plus, difficile de justifier une valorisation de 400 milliards de dollars pour Open Air.
Tu ne penses pas que eux, c'est les vendeurs de pelles ? Enfin, moi, pour moi, la manière dont je le vois en tant qu'investisseur, c'est tu as tous ces gars-là qui vendent du front, tu sais, qui vendent des agents, des trucs. En fait, ils te cotent juste le front. Oui. Mais derrière, ils se pluguent à ChatGPT. Et un peu comme tu consommes du cloud aujourd'hui, tu consommes du ChatGPT.
En fait, mais maintenant, tu as un DeepSeek qui est open source et qui tourne sur mon MacBook.
Non, mais on va pas arriver. DeepSeek, on va y arriver. Mais DeepSeek, c'est. D'ailleurs, il le disait, 6 millions d'euros, j'ai l'impression qu'en fait, c'était plutôt 1,6 milliard. Donc,
Même si c'est 1 milliard, c'est pas le sujet. Même si c'est 60, c'est pas important.
C'est pas le sujet.
C'est qu'encore une fois,
ouais, tu penses vraiment que ça va
investir dans OpenAI qui a 400 milliards de dollars.
Je suis investisseur early stage.
On va revenir sur DeepSeek en instant. Sur OpenAI, sur la valorisation OpenAI, sur...
Non, moi je pense que... La première chose que je vois, c'est qu'en effet, SoftBank met 15 milliards. Et pourquoi SoftBank et pas Microsoft ? Jusqu'à maintenant, c'était Microsoft qui mettait au pot. Tiens, bizarre. Le papa qui était sans arrêt derrière le fiston, qui l'a même sauvé de la condamnation à mort pour le remettre 3 jours après, une fois qu'il a sorti de l'échafaud pour le remettre sur le cheval, tout d'un coup, le papa, il dit, moi, je mets plus rien, on va chercher des Japonais. Il n'y a pas d'Américains dans ce coup-là. Et là, on se dit, tiens, c'est bizarre. C'est une nouveauté, personne n'en parle, c'est une nouveauté. Pourquoi ? Quand il n'y a pas de fumée sans feu, pourquoi ? Alors, je pense qu'il y a le régulateur, déjà, qui est en train de regarder Microsoft au microscope et qui lui dit... C'est pas le moment de mettre ça. Et puis après, il y a les concurrents. Mais la question qui se pose, c'est, OK, donc si Microsoft ne peut pas y aller, si Elon Musk ne veut pas y aller, OK, parce qu'ils ne sont quand même pas juste très, très amis, si Meta ne peut pas y aller parce que c'est un concurrent, il reste qui ? Il reste Amazon, qui, à mon avis, n'a pas trop envie d'y aller parce que lui aussi fait du cloud, et personne d'autre. Ouais, après, donc, il reste le Japon, parce que les Européens, c'est pas nous qui allons mettre de l'argent là-bas.
Ou des fonds saoudiens, quoi.
Ou des fonds saoudiens. Sauf que, dans cette guerre... les Japonais, ils ont aussi une limite. 15 milliards, c'est déjà beaucoup. Oui. Mais par rapport aux 300 dont on parlait tout à l'heure, tu sais quoi, ça fait 5% quand même. C'est pas suffisant. Ouais. Et puis après, les Saoudiens, c'est pareil. Donc, on voit quand même OpenAI, cette information, elle est belle d'un côté, mais de l'autre côté, elle m'inquiète un peu parce que je me dis, aïe. Enfin, OpenAI, quoi. Ouais. Donc, ça risque de faire mal à un moment donné.
Le mot de l'espoir.
Comme on sent la tentation comme disaient les Américains, de créer un moat, quoi, un fossé infranchissable pour de nouveaux concurrents. Et ça peut se faire qu'à dizaines de milliards de dollars. Le problème, c'est que si les mêmes concurrents passent par la porte de derrière, parce que justement, t'as des moteurs plus simples, open source, ou des moyens de faire moins cher, ou avec un peu moins, etc., tout à coup, on est dans un schéma de concurrence qui fonctionne plus du tout de la même façon, et qui remet en cause totalement ta stratégie.
Là, on a vraiment...
Même si c'est 60 ou 600 millions.
Il y a quelques temps déjà, je discutais avec moi, je disais, OpenAI, c'est un peu le petit lapin. Tu vois, il court devant, c'est lui qui innove. Ouais. Puis derrière, il y a les gros chasseurs qui ont eux, des revenus. Hein, ouais. 72 milliards de la pub pour Google. C'est quoi ? Pas de problème. Hein. Vas-y, cours.
Parce que je crois qu'OpenAI, c'est 5 milliards de revenus, mais évidemment,
quand tu regardes les dépenses... Voilà. Donc, tu vois le petit lapin qui court, puis les gros qui sont derrière, ils disent, vas-y, cours, nous, on te suit tranquillement. Quand on veut accélérer, on va accélérer. Si on veut shooter, on shoot. Donc, ils sont quand même dans une situation qui est pas tip-top. D'autant plus qu'à côté, il y a DeepSeek qui vient de faire des annonces. On va en parler. Parce que, je veux dire, il y a bien sûr de l'intox là-dedans. Il y a aussi de la géopolitique. Comme par hasard, on sort DeepSeek au moment où Trump arrive, etc. Il y a des négociations entre la Chine et les États-Unis. Donc, il ne faut pas se leurrer. Tout ça, il y a beaucoup de théâtre. Sauf que, quand même, en dessous, on en parlera peut-être tout à l'heure, il n'y a pas que des bêtises. Okay, mais pour OpenAI, je trouve que ça sent... Voilà, c'est comme un avion. Un avion, pour qu'il vole, pour qu'il tienne en l'air, il lui faut une certaine vitesse. Et il faut toujours du carburant pour qu'il tienne sa vitesse. Mm-hmm. Si le carburant vient à baisser, l'avion s'écrase. Et OpenAI, il n'a pas du carburant naturel. Il est obligé de demander en ce moment aux Japonais.
Oui, ou...
et il n'a pas le carburant naturel. Alors que les autres GAFAM ont un carburant naturel.
Ou même dans le projet Stargate, là, vendu par Donald Trump. Hein, sur la photo, certes, il y avait Sam Altman, il y avait Larry Ellison, et puis bon, il y avait Maya Soshison, qui était là, le patron de SoftBank. Mais c'est vrai que voilà. Et Elon Musk était le premier à dire oui, enfin, tout cela, si déjà ils arrivent à trouver 15 ou 20 milliards, c'est déjà bien. Hein. Donc voilà, on sent quand même que ça tire un peu. Et comme tu dis, le petit lapin, bon, on va continuer à le regarder. Enfin, en même temps, il fait des super produits. Hein,
non, c'est un bon lapin.
Ils ont mis le feu dans toute l'industrie. Ah, faut pas oublier. Il y a eu un avant-après.
C'est-à-dire
que tous les gyrophares sont mis au rouge chez Microsoft, chez Google.
Chez Google,
bien
ouais.
évidemment, même chez Meta, qui d'un coup s'est dit mais pourquoi on fait des lunettes là ? C'était pas ça qu'il fallait faire.
Allez, on va marquer. Vous remarquerez un truc, c'est qu'on parle plus d'Apple hein, quand même hein, dans cette affaire. Hein. Parce que dans le GAFAM, il y a le A de Apple.
Oui, mais c'est peut-être une position finalement confortable.
Ouais, ils sont contents. Il y avait que leur action qui a monté au moment où DeepSeek a fait son annonce.
Finalement, ils adopteront le truc qui marche le mieux.
Ça va bien marcher.
Ils vont pas se jeter sur le premier truc venu. Ça marchera quand ça marchera. Ils ont plein d'utilisateurs qui leur font confiance.
Ouais,
ils ont pas peur d'avoir une demi-génération de retard. Ça marche quand même. Pourquoi
changer ? Donc il y a les gros lapins, les beaux lapins, les gros chasseurs et le sage derrière, c'est ça que tu veux dire ?
Et puis il y a ses actionnaires derrière aussi qui lui disent attends.
Tout va bien.
Regarde un peu, ils sont déjà en train de se taper dessus. Donc vas-y, allez, on va marquer une courte pause. On se retrouvera juste après. On va démarrer avec le sujet sur les effets DeepSeek. On parlera de ce sommet de l'IA aussi qui démarre demain, parce qu'il y a déjà des choses au plateau de Saclay sur les chercheurs, mais le sommet du sommet, ce sera lundi et mardi au Grand Palais. Et puis tiens, on reviendra aussi sur les résultats de Nvidia qui ça marche pas mal, mais ça déçoit aussi, alors que ils sont assez présents dans les data centers, alors à la course hein, derrière Nvidia. On va en parler de tout ça. On marque une courte pause et on se retrouve juste après avec nos invités, nos experts débriefeurs. On est ensemble jusqu'à 21h pour le débrief, jusqu'à 21h30 Tech & Co, la quotidienne.